Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Une vie, une œuvre consacré aujourd'hui à l'écrivaine britannique Doris Lessing, 1919-2013. Nous sommes nombreux à avoir dans notre bibliothèque ce gros ouvrage de Doris Lessing qui s'appelle « Le carnet d'or » et qui est inspiré jusqu'au nom de l'émission d'Augustin Trapenard que vous pourrez entendre dans une heure. Au moment où elle le rédige, Lessing entre dans sa quarantaine, la maturité nécessaire pour explorer d'une façon exceptionnellement fine tous les thèmes qui la tourmentent et qui forment le cœur de son œuvre, la lutte contre les préjugés raciaux et les subtils comportements de domination des Blancs en Afrique, la déception de la politique et du communisme en particulier, le combat féministe. Mais sa dénonciation n'est pas celle d'une passionnariat ni d'une militante à tout craint. Lessing n'est jamais dogmatique, elle pointe surtout la complexité des rapports humains et sur tous les sujets, elle s'interroge, se remet en question jusqu'à se faire des ennemis dans ce qui semblerait être son propre camp au sein de la gauche ou parmi les féministes. Françoise Estève et Lionel Quentin retracent aujourd'hui son parcours.
Londres, 11 octobre 2007.
Doris Lessing sort d'un taxi avec ses cabas de course, des artichauts, une tresse d'oignons, des sacs plastiques. Des journalistes l'attendent. Ils lui expliquent que c'est elle qu'ils sont venus photographier.
Photographing you. Have you heard the news?
No.
You've won the Nobel Prize for Literature.
Oh, crap.
Il lui demande si elle a appris la nouvelle, si elle sait qu'elle vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Oh non, d'où Jésus. Vous savez, ça fait 30 ans que ça dure maintenant. Personne ne peut être plus enthousiaste.
C'est un écrivain qui a quand même rappelé a eu le prix Nobel. Assez récemment, en 2007. Mais elle trouvait que ça venait trop tard. Elle dit, ah bon, ils ont dû se rappeler que j'allais bientôt disparaître et qu'on pouvait peut-être me le donner. Elle était avec son artichaut, je ne sais pas si vous avez l'image. C'est vrai que c'est venu trop tard, elle n'a pas pu en profiter.
Bref, j'imagine que vous attendez des déclarations exaltées ou ce genre de choses.
J'adore cette image, je la trouve réconfortante, drôle, gaie, provocatrice, insolente, comme elle est.
Mais voilà, c'est ça. Rien de ce que l'on peut dire dans ces circonstances ne peut convenir. Tout ce que je vais pouvoir dire va sonner faux. Je voudrais remonter sur le trottoir maintenant.
La première fois que j'ai préparé un papier sur le Nobel de Doris Lessing, c'était en 1985. Et elle l'a eu très longtemps après. Mais elle l'a eu. Et comme elle disait, c'est parce que la date de péremption était passée sur moi.
Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de comité? Eh bien, on s'assoit ensemble et puis on dit, bon, il y a celle-ci, celle-ci et celle-là. Et d'ailleurs, celle-là devient vraiment vieille, il me semble. Il vaut mieux lui donner le prix à elle, cette année, parce qu'elle risque de claquer, et alors on ne lui aura jamais donné. Et c'est comme ça que ça s'est passé, il me semble. Vous savez, j'ai 89 ans, je suis vraiment très très vieille. Trop vieille pour quoi que ce soit, d'ailleurs.
Ah, c'était une femme. Alors, moi, je vais peut dire deux mots sur mon impression personnelle de Doris Lessing, que je n'ai pas bien connue, mais que j'ai croisée à plusieurs reprises dans mon travail.
Christine Jordis.
Et à l'inverse de ces écrivains anglais de cette génération que j'aimais pour leur courtoisie, leur gentillesse, leur civilité, j'avais trouvé une femme massive, totalement installée en elle-même, qui ne faisait aucun effort de séduction, aucun effort vers l'autre, dans la parole tout au moins. Mais je dois dire tout de même qu'elle avait, de temps à autre, un regard et un merveilleux sourire. Elle avait ça. Mais elle ne faisait pas d'effort pour séduire. On sentait quelqu'un de dur, dont la principale préoccupation était certainement d'être honnête et vrai, mais non pas de plaire à l'autre, ni de se retrouver à mi-chemin. Ça, non. Ça m'avait vraiment frappé, parce que j'avais commis une erreur, je crois, dans la présentation au British Council, et je l'avais vu se révolter, mais sans concession. Elle était d'une franchise absolue, et cette franchise et ce goût de l'honnêteté allaient avec dureté.
Le matin, je me réveillais avec la lumière du jour, sentant la chaleur du soleil sur mon visage. Je faisais la chasse aux araignées et aux scarabées accrochés au tulle, puis je me levais d'un bond pour le nouer en l'air. Je me laissais retomber sur le dos, bras et jambes écartés, repoussant les draps, respirant toutes les odeurs délicieuses de la pièce. D'abord, les différentes parties de mon corps, aux parfums familiers et distincts.
Elle a une manière d'écrire qui n'est pas britannique. Sa langue a voyagé et qu'en fait, elle vient de loin. Et il y a toutes les traces de l'Afrique dans sa manière d'écrire.
Le chaume dégageait une forte odeur d'humidité ou de paille sèche, selon le temps. La créosote, dont on badigeonnait les chevrons, était fortement imprégnée de goudron, comme le savon. Le lino, qui se trouvait déjà par endroits, sentait légèrement la graisse, comme la toile cirée sur la console de toilette. Mes chaussures avaient une odeur de peau de bête, comme les carrossises. Je refusais toujours d'en avoir un sur mon lit. Il était encore trop proche de l'animal tué. Sa puanteur grossière me faisait penser à Mrs. Scott et je ne voulais plus jamais songer à ce lieu.
Doris Lessing est née en Perse en 1919, au lendemain de la Grande Guerre, dans une famille de la classe moyenne. Ses deux parents avaient cruellement souffert de la guerre, qu'elle appelle l'innommable. Et Doris Lessing se dit avoir été engendrée, pervertie et déformée par la guerre. Alors vous avez traduit les deux tomes de son autobiographie, Anne Rabinovitch. Alors quel est votre sentiment ?
C'est vrai qu'elle en parle beaucoup dans le premier tome, Dans ma peau, et c'est ce qui l'a construite, en fait, c'est ce qu'elle explique. Et son père a perdu une jambe à la guerre aussi, donc elle a vécu toute sa jeunesse avec un père qui était estropié, ce qui a dû donc probablement renverser l'ordre familial, puisque c'est sa mère qui faisait tout et qui en plus était l'infirmière. Et ses parents s'étaient rencontrés à l'hôpital. Son père était donc blessé de guerre et la mère était infirmière. Et elle avait perdu son premier amour. Enfin, peut-être pas raconter toute l'histoire. Elle avait perdu son premier amour. Et donc, lui est d'abord tombé amoureux de cette jeune infirmière. Et ils sont partis, comme faisaient beaucoup les Britanniques, je pense, à l'époque. Ils sont partis en Perse et ensuite en Afrique. Mais c'était à l'époque où c'était la Rhodésie du Sud. Encore. Donc elle a vécu toute l'époque avant la transformation de l'Afrique, en fait. Et elle en parle très bien.
You know, there are two kinds of soldiers. One will never say a word about it, and the others talk all the time. My father talked all the time about the trenches, and my mother, because she nursed. She was a nurse of the soldiers, and...
Oui, moi, je peux dire que j'ai été élevée à l'ombre de la Première Guerre mondiale. Parce que mon père, par exemple, vous savez, il y a deux sortes de soldats, finalement, ceux qui en reviennent et qui serrent les dents et qui n'en parlent plus jamais. Et puis, il y a ceux qui en parlent tout le temps. Et mon père faisait partie de ceux-là. Il en parlait tout le temps, de la guerre. Et ma mère aussi l'avait vécu, puisqu'elle avait été infirmière pendant cette Première Guerre mondiale. Et puis, à l'époque aussi, on était très marqués par la grande épidémie de grippe, la grippe espagnole. Donc, je peux dire que, et je l'ai dit, parfois de façon un peu ironique, mais c'est vrai que je peux dire que je suis une enfant finalement de la Première Guerre mondiale par mes parents, par le poids qui a pesé sur mon enfance.
And we tend not to think war ends at the armistice and it doesn't.
On a toujours tendance à penser que la guerre elle se termine avec l'armistice, or c'est pas vrai.
Est-ce que l'on peut considérer, Anne Rabinovitch, que l'alliance de ses deux parents était un peu l'alliance de douleur, parce que finalement sa mère avait perdu l'homme qu'elle aimait, dont le navire enfin avait été torpillé et qui était mort noyé pendant la guerre.
Oui, je sais pas, je trouve ça un peu négatif comme vision. C'est vrai qu'ils étaient tous les deux dans une souffrance, mais que leur vie s'est ouverte. Je veux dire, ils ont quand même fait un grand projet en allant s'installer en Afrique, en créant une ferme, alors qu'ils n'étaient pas du tout destinés à ça. Ce qui était comme effectivement pas c'était assez courant chez les Britanniques puisqu'il y avait tout cet empire et que bon ils partaient tous. Enfin il y a beaucoup d'auteurs qui décrivent cette sorte de carrière. Et d'ailleurs Doris Lessing a d'une certaine manière ouvert la voie à de jeunes auteurs comme Alexandra Fuller qui est née 50 ans après elle et qui a vécu des événements assez semblables. Et c'est pas la même génération, mais c'est aussi des mêmes souffrances. Comme ça me rappelle ce que Doris Lessing dit du pensionnat où elle est enfermée, j'allais dire, où elle étudie. Parce qu'Alexandra Fuller, mais donc plus d'un demi-siècle après, elle a vécu les mêmes expériences avec la maltraitance et les punitions physiques. C'est impressionnant de voir à quel point les choses ont avancé lentement.
Son père, quand il s'est établi en Rhodésie, a acheté des terres, ou plutôt se les a fait financer par l'État qu'il devait rembourser, et puis qu'il a fait plus ou moins faillite par la suite, alors qu'il était parti avec des grands rêves. C'était lui aussi un être chimérique qui connaissait mal le pays, qui arrivait, qui s'implantait, et qui ne savait pas très bien comment traiter les serviteurs noirs, et surtout pas du tout comment traiter la terre, avec le problème des épouses, qui étaient plus malheureuses encore, puisqu'elles se trouvaient plus dépaysées, qu'elles ne pouvaient pas faire jouer leur talent, sinon en tant que mère de famille, ce qui ne les comblait pas toujours tout à fait. Et c'est le cas des nouvelles et dans la vie de Doris Lessing aussi, qui a beaucoup parlé de sa mère et de la situation de sa mère en Rhodésie. Il y a une nouvelle comme ça aussi où la femme, je crois justement que c'est l'arrivée des deux vêtes à Clough Grange, la femme avant de réagir s'est complètement effondrée, elle est en dépression et puis elle voit une jeune femme qui arrive et elle, à l'intérieur d'elle-même, elle lui prédit le même sort car que peut faire une femme dans ces pays sinon attendre toute la journée, elles ne savent pas quoi, il n'y a pas d'avenir pour elles, il n'y a rien.
La vie de Doris Lessing et de ses parents en Rhodésie du Sud a été une vie très, très austère, très âpre, très, très solitaire. C'était des fermiers relativement pauvres.
C'était ce qu'on peut appeler des petits blancs, des pauvres blancs. C'est vrai qu'ils n'avaient pas grand-chose, qu'ils vivaient de leur terre, ils n'avaient pas d'argent. Et puis la vie à la campagne, c'était rude. Mais quand même, elle a cette passion de la lecture. C'est ce qui a dû la soutenir. Et à un moment donné, elle dit, je savais que je partirais. Elle ne voulait pas rester. Sans parler de ses problèmes familiaux. Elle voulait faire quelque chose de sa vie.
Très curieusement, pour cette femme qui était vraiment une intellectuelle, elle a décidé de quitter l'école très très tôt. Elle avait 13-14 ans.
Mais je crois qu'elle...
Josiane Savigno.
Ça faisait déjà partie de son caractère. Elle pensait qu'à l'école, elle perdait du temps et qu'elle avait des tas de choses à apprendre et qu'il était temps de se mettre à les apprendre et que l'école, c'était quelque chose qui vous ralentissait. Mais il fallait une belle assurance quand même.
Doris Lessing a éprouvé une haine et une rage vis-à-vis de sa mère qu'il a poursuivi toute sa vie. Alors sa mère était une femme conformiste, un peu autoritaire, certainement maladroite avec elle.
C'était l'époque aussi qui voulait ça. Et puis elle préférait son petit garçon. Donc peut-être elle a été très contrariée par ce que devenait sa fille, et par son indépendance et par sa curiosité. C'est vrai qu'elle en parle beaucoup de sa mère. Elle dit que sa mère ne l'aimait pas. C'est terrible. Mais elle-même n'a pas hésité à abandonner ses enfants. Elle avait l'air de pas être émue du tout par les enfants. Elle les a quittés en disant « ils seront beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre que moi ». C'est particulier. C'est vrai qu'elle est partie, elle a changé de continent, elle a laissé ses deux enfants petits, et puis elle en a fait un troisième avec son deuxième mari, en disant « on avait un peu de temps à caser ».
on a l'impression même envers ses parents, envers sa mère surtout, qui était une Anglaise de la classe moyenne, bien pensante et rigoureuse. Pas pire qu'une autre, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que sa mère, telle qu'elle l'a décrit dans Ma peau, le premier tome de l'autobiographie, donc, est une femme courageuse, énergique et en un certain sens admirable, qui fait face à des situations très dures pour une femme.
Conformiste. Et c'est cela que...
Elle est conformiste, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui reste dans cette absence de tout, de racines et de repères? Qu'est-ce qui lui reste sinon les repères qu'on lui a donnés en Angleterre qui sont effectivement conformistes? Et cela, Doris Lessing ne lui pardonnera pas.
Une haine qu'elle ne cessera de déclarer en permanence jusqu'à la mort de sa mère et même après, puisqu'elle écrit dans une lettre, une correspondance à un ami. Elle lui dit le poème « Supplique pour une morte haïe » a été dicté par la haine que je ressentais à l'égard de ma mère.
Je me suis beaucoup interrogée en lisant son autobiographie pour savoir d'où lui venait cette dureté, notamment vis-à-vis de sa mère, que personnellement, je trouve une femme tout à fait acceptable. Elle ne battait pas ses enfants. Elle était plutôt gentille avec Doris Lessing. Certainement, elle préférait le frère. Mais enfin, bon, ça arrive souvent dans des familles. Il y a l'un qui est préféré à l'autre. Ça arrive, en tout cas. Je me suis demandé pourquoi cette haine. Je crois qu'il faut attribuer ça aussi au fait que c'était une enfant, ce dont on est loin de se douter, hypersensible. Je lis juste cette phrase. Si ma mère avait eu une fille de la même substance qu'elle, tout se serait bien passé. Par malheur, elle avait une enfant hypersensible, ne cessant d'observer et de juger ce qu'elle voyait, de se battre, impressionnable, avide d'amour. Une enfant à vif, d'une vulnérabilité à fleur de peau.
Elle dit en haletant de fureur « Je te défends de me parler anglais, tu entends ?» Puis elle s'arrêta. L'homme haussait les épaules, souriait, levait les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin qu'après lui avoir interdit de s'exprimer dans sa langue à lui, elle lui défendait à présent de parler dans sa langue à elle. En quelle langue devait-il donc s'exprimer ? La tranquille insolence de son attitude l'a mis dans un état de rage indicible. Elle ouvrit la bouche prête à le foudroyer, mais sa colère l'empêcha d'articuler un seul mot. Elle lut alors, dans les yeux du noir, un obscur ressentiment en même temps qu'un mépris amusé. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle brandit machinalement le fouet accroché à son poignet et lui asséna en plein visage un coup violent qui claqua dans l'air. Une grosse balafre apparut sur la chair sombre de la joue, tandis qu'elle regardait l'homme, et elle en vit sourdre une goutte de sang qui brilla, coula sur son menton et s'écrasa sur sa poitrine. Elle fit une voix sourde et haletante. « Maintenant, retourne à ton travail. »
Peut-on considérer, Josiane Savigno, que Doris Lessing, par sa clairvoyance, a été en avance dans les combats de son époque, par exemple en ce qui concerne le colonialisme?
Je ne sais pas si elle était vraiment en avance en ce qui concerne le colonialisme. En tout cas, elle était très engagée en ce qui concerne le colonialisme et surtout la situation dans le pays où elle a vécu une partie de son enfance, qui s'appelait la Rhodésie à l'époque, qui s'appelle maintenant le Zimbabwe, et où elle était interdite de séjour pour avoir critiqué le régime. Et évidemment, il y a aussi dans son œuvre des tas de choses qui sont précurseurs. À propos du carnet d'or, Joyce Carol Oates a dit que toutes les femmes de sa génération avaient découvert quelque chose avec le carnet d'or. Il y a eu aussi quelques malentendus à propos du carnet d'or. C'est-à-dire de faire de Doris Lessing une icône féministe, c'était pas tout à fait non plus ce qu'il fallait faire. C'était une femme libre, alors aucun embrigadement, même celui du féminisme, pouvait lui convenir.
Pour moi, ces premières œuvres de Doris Lessing sont ce que je préfère dans l'ensemble de son œuvre, qui est considérable, et c'est difficile d'établir une hiérarchie.
Christine Jordis.
Mais je dois dire qu'en relisant Vaincue par la brousse et Les Nouvelles africaines, j'ai été absolument émerveillée, et je trouve que ce sont d'absolus chefs-d'œuvre qu'il faut recommander aux lecteurs de lire toutes affaires cessantes. Les Nouvelles africaines, évidemment, sont... pénétré par l'atmosphère de l'Afrique, par la réalité africaine, par le problème des relations entre les Noirs et les Blancs. Mais il y a bien d'autres choses aussi. Il y a une psychologie profonde des personnages, des Blancs dans une terre qu'ils ne connaissent pas, où ils sont finalement malheureux, égarés et apeurés surtout. Quant à Vaincu par la brousse, c'est un livre que je trouve de bout en bout extraordinaire. Il retrace un double trajet, celui d'un mariage qui va à la déchéance et jusqu'à la folie, la faillite matérielle également. Et puis l'autre trajet, c'est la compréhension, ou plutôt l'incompréhension qui divise cette famille blanche ou ce couple de blancs avec les noirs de la plantation.
L'Afrique est un personnage du roman de Vaincu par la brousse et des nouvelles africaines. C'est un être vivant. Il y avait à la fois la fascination de cette nature, mais en même temps, elle représentait une menace.
Elle représente une menace et elle est décrite de façon admirable parce qu'on voit comme elle varie suivant le regard qui se porte sur elle. Quand c'est Dickton, ce fermier falot, mais en même temps très sympathique parce qu'il aime véritablement la terre, on voit que la nature est vivante, il aime le moindre brin de maïs, il s'identifie à un arbre, à un buisson. Tandis que Mary, qui est citadine, sa femme, qu'il a été chercher en ville par une journée malencontreuse et qui a cru se sauver en l'épousant, pour elle, la nature est tout le contraire. Elle est oppressante, elle est effrayante. En hiver, elle revit un petit peu parce qu'elle a frais, mais en été, sous son toit de tôle ondulée, elle étouffe absolument et elle hait la chaleur et elle la craint. Et c'est la chaleur et la brousse, comme le dit le titre, qui viendront à bout d'elle. Donc la nature, elle est là, c'est un personnage, elle tue. Elle tue.
Oui, la maison, la boutique, les poulaillers, la hutte de l'anglais, tout serait détruit, enterré sous les fourrés de la brousse. Le cerveau de Marie elle-même, à cette minute, débordé de feuillages, de branches, d'herbes épaisses et mouillées, envahi par une végétation folle, vivace. Puis brusquement, le courant fut coupé, tout prit fin, la vision s'effaça.
La nature est incarné d'une certaine façon par un noir puissant, magnifique, obscène, dira Mary. Car vraiment, je crois que ce problème de la sexualité, sexualité refoulée, est au centre du livre. C'est un thème qui court tout au long du livre et qui est éclairci par Doris Lessing, exprimé de façon très nette à divers endroits. On voit que Mary n'a pas de sexualité ou une sexualité si enfouie qu'elle est devenue une cause de terreur. Et c'est là d'ailleurs l'échec le plus fondamental de Dick Turner, c'est qu'il est, pour sa femme, un objet, on ne dit pas de dégoût, mais d'éloignement. Tandis que le noir, Moïse, qui va peu à peu s'imposer, n'est certes pas un objet de désir, elle ne peut pas désirer un noir, ça n'entre même pas dans les possibilités ni dans sa mentalité, mais par la force sexuelle qu'il dégage, il lui cause une obsession qui est en fait une fascination inversée. Et là, je voudrais dire quelque chose qui pour moi est très important. Elle sort du poulailler et elle le voit, ce noir, en train de se laver. Elle voit son dos puissant, musclé. Elle voit son cou noir et le savon très blanc dessus. Et ça lui donne un véritable choc, d'autant plus qu'il se retourne à ce moment, la voit, et qu'il a l'air d'en tenir compte, et qu'il puisse même tenir compte du fait qu'elle est là, lui semble une insolence insupportable. Et c'est donc toute la scène du désir refoulé, désir qu'elle refuse, et qui est encore une fois de l'angoisse et de la terreur chez elle, ça m'a rappelé une scène de D.H. Lawrence. Et je trouve que dans ce livre, à plusieurs reprises, on a l'impression que Doris Lessing a lu D.H. Lawrence. C'est l'amant de Lady Chatterley quand Mellers, le garde-chasse, se lave dans une bassine et que Lady Chatterley découvre en le voyant ce choc du désir. Eh bien ici, on a le choc contraire qui est le choc de l'horreur.
Il entendit le bruit familier, ce grincement incessant de la tôle au-dessus de sa tête et elle eut l'impression d'un immense corps noir pareil à une araignée humaine, rampait sur le toit, essayant de se faufiler dans la maison. Et elle était seule, elle était faible. Elle était enfermée dans l'étroite boîte noire entre ses quatre murs, sous ce toit qui pesait sur sa tête. Acculée maintenant, prise au piège, impuissante, il lui faudrait pourtant aller à sa rencontre, poussée par la terreur, mais aussi la connaissance de l'inéluctable.
La fin du livre, où elle se soumet en quelque sorte à la mort, au meurtre qui l'attend et qui fait partie de sa vie, dont elle sait que cette mort est inscrite dans sa vie, elle va vers elle. Elle est terrifiée, mais elle y consent. Et j'ai trouvé que toute cette fin, qui est très très belle, la fin de Vaincu par la brousse, est admirable, parce que il y a une joie extraordinaire qu'elle n'a jamais connue, une joie diluvienne qu'elle ressent tout à coup. Elle est libérée. Et la nature, elle la voit. Elle a la double vision de William Blake. Tout à coup, elle voit la nature comme une merveille absolue, une merveille qui lui est révélée. Elle a une forme de révélation de ce qu'est la beauté du monde. Et donc, elle vit pleinement ce bonheur. Et puis, les cigales, c'était au petit matin, et puis tout à coup, les cigales se mettent à chanter, qui sont comme une espèce de concrétisation de la chaleur, avec tout ce que la chaleur représente d'horreur pour elle. Et à nouveau, elle est ressaisie par la terreur. Et le cercle des arbres qui s'était écarté pour lui laisser voir le ciel se resserre et la nature l'enferme.
Comme elle ouvrait la bouche, elle vit dans la main du nègre qu'il tenait levé au-dessus de sa tête un objet long et recourbé. Et elle comprit qu'il était trop tard. Sa bouche s'ouvrit encore pour appeler à l'aide. Mais à peine laissa-t-elle échapper un cri, qu'il expira sous la pression d'une main noire dont les doigts s'enfonçaient dans sa gorge. Mais le cri, interrompu, ravalé par Marie, l'étouffait. Elle leva ses deux bras, ses mains aux doigts recourbés comme des serres, pour repousser l'homme. Alors la brousse se vengea. Telle fut la dernière pensée de Marie. Les arbres se jetèrent sur elle, l'assaillirent brutalement comme des bêtes sauvages, tandis que le tonnerre grondait.
Très tôt, Doris Lessing a été indignée par la société coloniale et par le traitement infligé aux serviteurs noirs.
Oui, mais c'était naturel chez elle. C'était pas du tout, les idées que de ses parents ni de sa mère. Sa mère était, elle comprenait pas du tout pourquoi. Elle se souciait des Noirs et chacun avait sa place. C'était la place des Noirs et puis les Blancs. Eux, ils avaient aussi une vie très difficile, mais il n'y avait pas d'empathie. Il n'y avait pas de compassion, d'empathie avec les Noirs. Et c'est vrai que je sais pas si c'est peut-être c'est question de ces idées politiques. Pourtant, à un moment donné, j'ai l'impression que ça a un peu dégénéré, qu'il n'était pas vraiment d'accord avec elle. Mais elle, ça lui est venu naturellement, donc c'est vrai que c'était quand même aussi un précurseur de ce sentiment anticolonialiste et antiraciste qui n'était pas du tout d'actualité dans ces années-là, quoi. Et c'était avant, effectivement, que tous ces problèmes politiques et ces guerres entre tous ces pays de l'Afrique centrale. C'était vraiment avant, quoi. Vraiment, elle a ouvert des portes, Doris Lessing.
D'ailleurs, elle disait que le politiquement correct était une tyrannie, était la tyrannie du monde moderne, du monde occidental.
Oui, c'était un de ses derniers combats. Elle a publié des textes qui ont été publiés dans des revues en France, dans la revue L'Infini de Philippe Soler, contre le politiquement correct. Et elle détestait ça. Et je pense qu'aussi une grande partie de ses attaques à la fin de sa vie contre les féministes, c'était plus des attaques contre le politiquement correct que comme le féminisme. C'était contre une certaine partie de ce féminisme un peu racorni, comme elle disait, ce qu'on appelle le différentialisme, au fond, c'est-à-dire les femmes qui pensent qu'il y a des qualités particulières aux femmes qui les rendent bien meilleures que les hommes. Je ne pense pas que Doris Lessing pensait ça.
Tout de même, Doris Lessing ne s'est-elle pas piégée quelquefois elle-même? Par exemple, en ce qui concerne justement cette question du féminisme, elle présente dans beaucoup, à la fois de ses romans et de son autobiographie du Carnet d'heures, etc., elle fait des portraits d'hommes qui sont falots, qui sont inexistants, qui sont veules, souvent lâches, qui ne prennent pas leurs responsabilités.
Moi, je pense qu'elle n'a pas eu d'excellents rapports avec les hommes au cours de sa vie.
Et toi, alors, ça va avec Anna ?
Ouais, ça va. Nulle part.
Elle est géniale. C'est la plus gentille des filles. Sauf que, tu vois...
Ouais.
Bientôt, il va falloir que je m'en débarrasse. Salut.
Salut.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Je voulais pas t'en parler au téléphone.
Me parler de quoi ?
J'attends un enfant.
Doris Lessing s'est mariée très jeune, Anne Rabinovitch.
Elle s'est mariée très jeune, je pense que c'était pour échapper à sa famille. Et puis ça se faisait aussi beaucoup à l'époque. Et pourtant, c'était une personne très, très originale. Et je pense qu'elle était assez malheureuse dans son premier mariage d'avoir cette vie très conventionnelle, de prendre le thé avec les autres jeunes mères de famille et de parler de bébé. Je crois que ça n'intéressait pas vraiment beaucoup. Mais que c'était une manière, c'est effectivement de s'en sortir. Et elle savait que, comme ça, qu'il y aurait une porte à un moment donné qu'elle pourrait s'échapper. Mais la maternité, je ne pense pas que c'était une chose qui l'intéressait du tout. Elle le dit, franchement. Et à son époque, c'était très particulier. Ça ne se disait pas. Et donc, elle n'a pas hésité à quitter son mari, à le tromper. C'était pas un problème. Elle a un rapport particulier avec l'émotion, quand même.
Après ce premier mariage très conformiste, où elle a eu deux enfants, Doris Lessing va rencontrer alors un personnage qui va être très important, qui est une personnalité très particulière, Gottfried Lessing, dont elle va garder le nom après son divorce. Alors c'était un Allemand communiste, réfugié.
C'est un réfugié, d'ailleurs, qui était demi-juif. Et ça donc lui a ouvert un autre horizon, effectivement, dessous ces gens qui devaient quitter l'Europe. Et je pense que ça l'a stimulée dans son militantisme. Mais en même temps, elle disait que c'était provisoire. Elle était avec elle, elle a épousé, parce que c'était assez difficile de vivre avec quelqu'un sans être marié, en Rhodésie du Sud et probablement aussi en Grande-Bretagne. Mais elle disait que bon, voilà, il y a un moment, ils allaient se séparer. Elle savait que ça n'allait pas durer, qu'à un moment donné, ils se sépareraient, malgré la présence de l'enfant. D'ailleurs, l'enfant était l'enfant de tout le monde, de tous les militants. Puisqu'elle dit qu'elle l'amenait dans les réunions de cellules et que tout le monde adorait cet enfant puisque c'était le seul couple à en avoir.
J'ai fait ma propre éducation à travers la littérature anglaise. Vous ne pouvez pas lire Dickens et ne pas faire de comparaison avec ce que vous observez à travers votre fenêtre. Vous savez, la littérature est une grande force de révolution. Donc je n'avais pas besoin qu'on vienne me dire « ça n'est pas un bon régime. Ça n'est pas un très joli pays. » Tout cela, je le trouvais dans la littérature. Je pense qu'on me considérait comme une excentrique. Je n'ai pas été comprise jusqu'à ce que je rencontre des communistes qui étaient soit des réfugiés, soit dans l'aviation. Et j'ai réalisé alors que mes idées, après tout, n'étaient pas si absurdes que ça. Quand je leur disais « ce régime en Rhodésie, il ne va pas durer, il ne peut pas durer », ils me répondaient « bien sûr que non, il ne va pas durer ». À part eux, il n'y avait personne à qui je pouvais dire des choses comme cela en Rhodésie. Les gens ne voulaient pas entendre parler de ça, ils pensaient que l'Empire britannique était là pour toujours. On croit toujours que l'époque dans laquelle on se trouve va durer, mais non, les choses ne sont pas éternelles.
Parmi les les paradoxes de Doris Lessing. Il y a notamment ce fait, elle écrit dans son autobiographie « J'ai été peut-être communiste de 1942 à 1944 et j'ai adhéré au parti en 1951 ».
Elle en est sortie pas trop longtemps après. Mais je pense que quand elle disait « j'ai été communiste », c'est-à-dire qu'elle était portée par un idéal au-delà de la réalité, entre la période où elle était vraiment communiste. Parce que je crois, elle voulait dire qu'elle était vraiment communiste dans le rêve de l'accomplissement du communisme. Ensuite, elle a pris sa carte pour savoir si on pouvait faire quelque chose. Et puis, elle a vu que non, et elle est sortie.
Mais elle a pris sa carte au moment où elle commence à avoir des doutes.
Et prendre sa carte au moment où on commence à avoir des doutes, ça peut être une manière de lutter contre le doute.
Je vaux beaucoup mieux que ces centaines de milliers de gens, jeunes pour la plupart, qui ont assassiné, torturé, maltraité en Union soviétique, en Chine et ailleurs. Pourquoi ? Comment puis-je penser une chose pareille ? La croire. Dans ma vie, j'ai observé encore et encore des masses de gens entraînés dans un sens ou dans l'autre par l'émotion, avec autant de possibilités de dire non que des poissons au milieu d'une inondation. Je dois admettre le fait que moi et tous mes chers camarades à l'esprit élevé, autant les membres de ce chimérique parti communiste de Rhodésie du Sud que beaucoup d'autres rencontrés depuis, dont certains découvrent encore des certitudes réconfortantes dans les convictions passées du communisme, avions tous l'étoffe de ces assassins à la conscience nette. Nous eûmes de la chance, c'est tout.
Radicales sont les ruptures dans la vie de Doris Lessing. 1949, Doris Lessing fuit enfin la Rhodésie du Sud, sa vie coloniale étouffante, sa ségrégation raciale. Elle se libère des tentacules de la famille, c'est son expression, et part pour Londres avec son troisième enfant, Peter Lessing, abandonnant définitivement les deux enfants de son premier mariage pour acquérir son identité. Une identité, écrit-elle, qui justifierait de les avoir quittés.
C'était courageux de prendre cette décision et en même temps, à l'époque, il y avait peu de femmes qui le faisaient.
Anne Rabinovitch.
Enfin, des femmes qui se retrouvaient toutes seules, mais pas qui décidaient de partir, de s'éloigner de leur famille et de leur compagnon. En plus, là, la séparation avec Gottfried. Donc, c'était, même si elle disait que ça ne durerait pas, c'était pas évident. Donc, elle s'est mise à écrire et puis continuer de militer. Et puis, il y a eu l'époque où elle est allée en Russie, où elle était très déçue. Donc, c'est vrai que c'était des époques plus. Une époque plus austère, finalement, que la vie en Afrique, qui était matériellement difficile, mais qui était beaucoup plus. Tourbillonnante, beaucoup plus vivante, en quelque sorte. Et puis, c'est tout le contexte, quand même, britannique, qui est assez formel et figé. Mais peut-être qu'elle se sentait plus libre d'écrire en Angleterre, c'est possible.
When I came to England, I realized how much freer the women in Southern Africa were, in ways that the English women were not.
Quand je suis arrivée en Angleterre, je me suis rendu compte à quel point les femmes en Afrique, dans le sud de l'Afrique, étaient beaucoup plus libres que les Anglaises. Moi, je connaissais des femmes qui tenaient leur ferme, qui la dirigeaient elles-mêmes.
Groups of young people just would go off into the bush for.
Quand je suis arrivée, donc j'ai vu cette différence. Il y avait aussi, par exemple, en Afrique, des jeunes, on pouvait partir dans le bush et puis aller faire des randonnées. Bon, personne ne se posait de questions. Ce n'était pas le cas en Angleterre, où si on voyait une fille et un garçon partir comme ça, on n'imaginait pas tout de suite qu'ils étaient amants. Et la vie était plus simple de ce côté-là, beaucoup plus facile, alors qu'en Angleterre, les femmes, elles avaient des vies beaucoup plus étriquées, en dépit de la guerre, d'ailleurs, qui avait beaucoup fait pour leur émancipation.
Mais elle est décrite aussi dans ses nouvelles, par exemple les nouvelles de Londres que j'ai traduites. Elle décrit quand même, c'est un univers assez dur. Bon, les femmes, elles ont une vie vraiment pas facile. Hein. Je sais pas, je me souviens de cette jeune fille qui va accoucher dans un hangar et elle jette le placenta au chien. C'est terrible, c'est épouvantable. Et puis elle abandonne le bébé qu'elle enveloppe, je sais pas, dans quelque chose qu'elle a trouvé, dans une couche qu'elle a trouvée dans un supermarché. Et puis elle l'abandonne. Mais c'est certainement vrai. Enfin, c'est donc bon, ça représente un peu l'époque qu'elle a dû affronter. Mais avec courage, et finalement, elle se plaint pas. C'est difficile, mais elle se plaint pas de sa vie. Elle maîtrise.
Oui, elle ne se plaint pas, mais tout de même, elle exprime à plusieurs reprises, notamment dans le carnet d'or, la difficulté d'élever un enfant toute seule. Elle déplore la lâcheté de l'homme, notamment Gottfried, qui part pour l'Allemagne et qui ne revoit plus son enfant.
Oui, puisqu'elle va le voir une fois. Elle va le voir et elle n'arrive pas à le convaincre que son enfant a besoin de lui, a besoin de le voir. Elle ne demande même pas d'aide matérielle, mais juste qu'il comprenne qu'on est quand même responsable vis-à-vis de ses enfants. Et que bon, l'enfant, effectivement, a besoin de son père. De son père présent, même loin, mais présent quand même. De toute manière, il paraît que c'était un espion. Elle dit qu'elle a découvert que c'est un espion du KGB. Et il disparaît dans un attentat à Kampala, je crois. Oui, c'est ça, en Ouganda. Oui, oui, c'est très, très étrange, cette histoire.
Mais alors, qu'écris-tu dans ces journaux intimes ? Ce ne sont pas des journaux intimes. Appelle-les comme tu veux. C'est le chaos, précisément.
À propos du carnet d'or, Doris Lessing écrit que ce livre est né de tant de sang, de sueur et de larmes. Et elle dit qu'au moment où elle l'a écrit, il a été publié en 1962, elle était à un tournant de sa vie émotionnellement. Alors la structure de ce livre est très complexe, Geneviève Brissac. Est-ce qu'elle reflète ce sentiment de peur, d'angoisse de la désintégration qu'avait Doris Lessing ?
Oui, tout à fait. Alors, le Carnet d'or est un livre passionnant parce qu'il est écrit au moment où Doris Lessing, ayant déjà eu du succès avec des romans auparavant, a traversé une période de dépression, d'angoisse, qui est liée à un changement d'époque, à un changement de monde. Et elle jette un regard sur sa vie passée, sa vie militante, sa vie sentimentale, sa vie politique, sa vie intellectuelle, et elle la décompose à travers ce livre du carnet d'or en plusieurs carnets qui sont chacun une dimension de sa place dans le monde, de sa perception du monde. Alors, c'est un livre qui a eu énormément d'importance pour moi et pour nous et pour les femmes de ma génération, je pense, parce que quand il a été publié, il représentait un effort gigantesque, comme vous le disiez, la phrase churchillienne, un effort gigantesque pour prendre le monde à bras-le-corps, l'englober et donner le regard d'une femme, d'avoir le courage, en fait, de donner le regard d'une femme sur cette histoire politique, sociale, sexuelle du monde et des rapports entre l'Afrique et l'Occident, disons, puisque on sait que ce rapport du colonialisme aux pays colonisés est très, très important pour elle et vient, se superposer à sa vision de l'oppression des femmes, même si elle s'est toujours défendue d'être féministe, elle a toujours eu à cœur d'essayer de rendre compte d'une vision féminine du monde. Alors, pourquoi ce livre est très important pour moi ? À cause de cette affirmation et aussi de cette force de Doris Lessing, hein, qui est considérable. Je pense que les femmes écrivains comme moi manquent énormément de modèles, de repères, de grandes aînées sur qui s'appuyer, à qui s'identifier et qui puissent vous porter dans la confiance qu'on a dans soi-même. Et Doris Lessing, parmi d'autres, mais pas tant d'autres que ça, est un écrivain qui représente cette ambition d'écrire un livre, c'est le Carnet d'or, qui va changer la face, peut-être pas changer la face du monde, mais changer la manière dont on va regarder le monde à travers les yeux d'une femme écrivain.
Le Carnet d'or, moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre majeure du XXe siècle. C'est vraiment un livre assez extraordinaire. Par la construction, d'abord, par la construction et par la manière dont finalement une femme se construit à travers ça. Bon, en fait, elle va pas bien, cette femme. Elle va pas bien du tout, même. Elle a l'impression que tout se dérobe, et puis qu'elle peut même plus écrire, que tout... C'est vraiment un moment... Je pense qu'il y a peut-être eu un déclencheur autobiographique. C'est un moment où on maîtrise plus sa vie, on maîtrise plus son langage, on maîtrise plus rien. Tout fout le camp. Et donc, elle décide que, pour lutter, il faut s'organiser. Et donc, avoir des carnets dans lesquels on note un certain nombre de choses qui ont des couleurs différentes. Et puis, il y a un carnet d'or qui dit autre chose. Mais il faut le lire, il ne faut pas le dire.
Le premier carnet, celui qui était noir, commençait par des petits dessins, des symboles musicaux épars, des clés de sol qui se transformaient en livres sterling puis redevenaient clés de sol, puis un motif assez compliqué de cercles enchevêtrés, puis des mots. Noir. Sombre, il fait si sombre. Il fait sombre. Il y a une sorte d'obscurité ici. Et puis, d'une écriture différente, affolée, chaque fois que je m'assieds pour écrire et que je laisse mon esprit vagabonder, les mots, il fait si sombre, ou quelque chose d'analogue. Terreur. La terreur de cette ville. La peur d'être seule.
Le carnet d'or est fragmenté, mm-hmm. alors en plusieurs parties. Il y a les carnets, il y a également un roman qui structure le livre, Femme libre. Alors pourquoi cette structure comme ça éparpillée ?
Alors elle s'en explique très bien. Hein. Elle dit « Je nourrissais l'idée que si le livre était bien construit, il fournirait son commentaire sur le roman conventionnel. Le débat sur le roman date de la naissance du roman. » Donc c'est vraiment l'idée que le roman déconstruit permet de rendre compte du monde déconstruit. Prendre des angles différents permettait de rendre compte mieux de la réalité, pas de donner cette vision mensongère, comme elle le dit, cette vision mensongère et unidimensionnelle du monde que donne un roman tolstoïen, on va dire. À travers les différents carnets dans lesquels Anna Wolf écrit, on retrouve cette méthode de Doris Lessing qui consiste à renoncer à la vision frontale du monde pour en avoir une approche cubiste qui correspond d'ailleurs exactement à son époque. Et d'ailleurs, je crois, elle a des expressions sur le cubisme littéraire, donc l'abstraction romancée. Et il y a un rapport entre l'écrivain et la peinture qui est extrêmement intéressant. Alors, je vais vous chercher un passage. Elle se mit fiévreusement au travail, découpant de nouveaux articles et les fixant au mur. Ce soir-là, assise par terre en écoutant un disque de jazz, désespérée par son incapacité à donner un sens aux extraits de journaux, elle éprouva une nouvelle sensation, comme une hallucination, une nouvelle image du monde encore incomprise. Cette nouvelle compréhension était absolument terrible, une réalité différente de tout ce qu'elle avait jusqu'alors connu, qui provenait d'une zone de sensation qu'elle n'avait jamais parcourue. Ce n'était pas comme être déprimée, ou malheureuse, ou découragée. Les sens de l'expérience dépouillaient de leur sens des mots comme joie ou bonheur. En émergeant de cette hallucination, située hors du temps, de sorte qu'Anna ignorait combien de temps elle avait duré, elle comprit qu'elle venait de vivre une expérience pour laquelle il n'existait pas de mots, une expérience située au-delà du monde où les mots ont un sens. Elle se disait « Je ne sais pas pourquoi je trouve si dur d'accepter que les mots soient imparfaits et par leur nature même imprécis. Si je pensais qu'ils fussent capables d'exprimer la vérité, je ne tiendrais pas de carnet que je ne veux laisser voir à personne. »
Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui savait tout ce qu'il fallait faire avec les mots. Et la manière dont elle peut déconstruire tous les types de langage, le langage, j'allais dire, féministe, stalinoïde, un peu idiot, comme elle l'a fait à la fin de sa vie, le langage du communisme, tous les langages... les langues de bois, en fait, les langues de bois totalitaires, les langues de bois éditoriales, tout. Je crois qu'elle était très... Elle avait l'oreille pour les mots. C'est pour ça que c'était un très bon écrivain. On voit tout de suite son style, elle a la musique des mots. Donc elle avait aussi l'oreille pour les mots des autres.
Alors dans le carnet d'or, il y a plusieurs carnets de couleurs différentes, un pour la fiction, un pour la vie intérieure, un pour la politique. Mais quelle est la signification du carnet d'or, qui est le point d'orgue du livre ?
Le carnet d'or, c'est le carnet de la synthèse, en fait. C'est le dépassement de tous les autres carnets et c'est la possibilité de recommencer à écrire. Parce que ce qui est très intéressant dans le carnet d'or, c'est que tout ce qu'elle écrit, ses carnets et le roman qui se déroule, est fondé sur l'impossibilité d'écrire. Mais le carnet d'or, c'est la synthèse possible de nouveau et surtout le redémarrage de la fiction.
Je crois que c'est le fondement de sa nature et de son œuvre qu'on peut dire que ce qui sous-tend toute son œuvre et toute sa démarche d'écrivain, c'est le désir d'y voir clair, c'est le désir de comprendre, et cela dans tous les domaines, parce qu'il est peu de domaines dans cette œuvre gigantesque qu'elle n'est pas abordée. Doris Lessing s'est intéressée de près à la folie. Rien ne l'a intimidée. Toutes les aventures intellectuelles, elle les a suivies, et cela avec la volonté, aucune complaisance, avec la volonté vraiment de voir clair. Donc pour moi, la base de cette œuvre, c'est le courage intellectuel, et ça, je trouve ça magnifique.
Il y a beaucoup de personnages chez Doris Lessing qui se désintègrent. Elle écrit dans son autobiographie qu'elle a passé une partie de sa vie à écrire sur des fous et des demi-fous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, dans ce que j'ai relu, c'est surtout les personnages de femmes qui se désintègrent, parce qu'elles n'ont pas d'identité véritable dès le départ. Elles n'ont que les manières, manneuses comme la mère de Doris Lessing. Elles n'ont que des choses superficielles à quoi se raccrocher. Mais beaucoup d'entre elles sombrent dans la dépression, elles n'ont pas le courage moral de lutter, elles s'effondrent, et Doris Lessing examine effectivement avec énergie. Elle imagine toutes les étapes de la désintégration d'un être humain et en particulier d'une femme.
Même dans son œuvre, elle est très paradoxale parce qu'il y a quand même des volants de son œuvre très très divers. Par exemple, il y a tout ce cycle Canopus in Argo, c'est ça, tout ce cycle de science-fiction qui moi me laisse assez perplexe parce que je suis pas une grande lectrice de science-fiction, mais je suis étonnée de qu'elle ait eu et même un des derniers livres qui a été publié en France là, sur le général Dan, elle avait cette espèce d'imaginaire absolument incroyable et paradoxal.
Elle était un peu hantée également, au départ de sa vie, par la guerre, et à la fin de sa vie, par une apocalypse possible, apocalypse écologique.
Oui, je pense que dans tous ces livres un peu de science-fiction, il y a cette idée qu'on va vers un désastre. On va vers un désastre écologique, on va vers... Alors, tout d'un coup, les continents sont recouverts par la mer, ou au contraire, désolés, deviennent des déserts. Je pense que ça l'a... Alors, je ne sais pas si ça l'a hanté négativement ou si ça l'a fasciné en même temps. C'est compliqué.
Ce serait facile de dire que j'ai pris un couteau pour m'ouvrir le flanc, que j'en ai extirpé mon cœur et que je l'ai jeté. Mais malheureusement, cela n'a pas été aussi simple. Non pas que, comme tout le monde, je n'ai souvent souhaité le faire, mais cela s'est passé tout autrement, et pas comme je l'avais imaginé. C'est arrivé juste après que j'eus déjeuné, puis pris le thé, avec deux hommes différents. Je sentis les doigts de ma main gauche se tendre vers quelque chose d'assez gros, léger et un peu gluant. Une sensation difficile à décrire, vraiment. Ma main n'est pas bien grande, et j'avais le cœur enflé après ce déjeuner avec A et le thé avec B et dans l'impatience de rencontrer C. En tout cas, mes doigts se tendaient désespérément pour s'emparer d'un objet inconnu, assez gros et plutôt léger, et je dus dire « Excusez-moi un instant ». En baissant les yeux, je découvris mon cœur dans ma main. Un cœur cru et saignant. À peine sorti des entrailles, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Je fus épouvantée et bien sûr embarrassée de voir que c'était cela qui avait aimé et palpité follement pendant tant d'années.
Car si j'en avais eu la moindre idée, bon, voilà qui suffit. Lorsque j'eus terminé ma cigarette, je déroulais soigneusement une feuille de papier d'aluminium du genre qu'on emploie pour envelopper les aliments et j'ajustais une sorte de protection autour de mon cœur. C'était là une urgence absolue. D'abord, il souffrait atrocement. Après tout, il avait passé quelques 40 ans à l'abri de la chair et des côtes et l'air libre l'épuisait. La feuille de papier d'aluminium fut efficace et même assez saisissante. Grâce à sa souplesse, il semblait à présent que j'eusse un cœur stylisé en équilibre sur ma paume, tel un globe, fait d'une substance argentée, brillante. Plus de cœur du tout. Quelle bénédiction, quelle liberté. Tu entends ce bruit ? C'est un rire, oui. C'est moi qui ris. Oui, c'est moi.
Le seul livre où je trouve qu'elle se laisse aller à l'émotion, c'est L'amour encore. Ou peut-être avec le recul, elle en parle avec plus de... Elle se laisse plus aller. C'est un livre qu'elle a écrit beaucoup plus tard, je pense qu'elle avait 70 ans à peu près, ou plus. Et c'est l'histoire d'une femme de 65 ans qui tombe amoureuse d'un très jeune homme et qui traverse toutes les affres de l'amour et qui se dit c'est épouvantable de souffrir comme ça, c'est intolérable, mais qui est complètement prise dans cette sorte de tourbillon amoureux. Que Doris Lessing a dû contrôler, ou penser qu'elle contrôlait dans sa jeunesse, parce qu'elle avait d'autres objectifs, et que c'était le plus important. D'autant plus qu'elle avait cet objectif politique, qui cadrait toute sa vie. Et tandis que L'amour encore, elle écrit ça déjà âgée, et elle s'est laissée aller à beaucoup d'émotions et de poésie, en fait.
Comment expliquez-vous, Anne Rabinovitch, que Doris Lessing est tellement tenue à cet ouvrage, L'amour encore, thème qu'elle reprendra plus tard avec les grands-mères?
Je suppose que c'était autobiographique, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'autobiographie, elle la maîtrise. En plus, elle a le recul. Ça s'est passé il y a longtemps. Elle en fait une œuvre. Mais là, ça devait être trop proche d'elle. Je pense que ça doit être ça. J'en sais rien, parce que personne n'a su, personne n'a demandé d'ailleurs. C'est un beau livre, hein. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'elle se sentait un peu fragile, peut-être, dans cette histoire. Elle dit des jolies choses d'ailleurs. J'avais noté un passage, si je le retrouve. Hein. Alors commença une période qui, quand elle y repensait, ressemblait à un pays où elle se serait rendue par hasard et dont elle aurait ignoré l'existence. Un lieu plein de charme, un paysage comme dans les rêves, avec une atmosphère puissante qui s'exprime dans une langue qu'on connaît à demi et qu'on a oubliée.
Doris Lessing par Françoise Esteb et Lionel Quentin. Avec Geneviève Brissac, Christine Jordis, Anne Rabinovitch, Josiane Savigno et la voix de Doris Lessing, Archivina Anne Delavaux. Texte lu par Françoise Lebrun, traductrice Perrine Kervan, extrait du film Perfect Mothers d'Anne Fontaine, inspiré du roman de Doris Lessing, Les Grands-mères, attaché d'émission Laurence Genepin, mixage Alain Joubert.
Doris Lessing dans Une vie, une œuvre aujourd'hui, une émission que l'on devait à Françoise Esteb et Lionel Quentin et que vous pouvez retrouver en podcast. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux avec notre petite infographie en forme de cerveau, vous le savez, et qui présente les inspirations des personnes dont nous parlons dans l'émission. Samedi prochain, nous parlerons du peintre américain d'origine russe Mark Rothko et de la façon dont on peut interpréter une peinture aussi appréciée du grand public que difficile à saisir, vous l'entendrez. Le carnet d'or, celui d'Augustin Trapenard, c'est dans un instant sur France Culture. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.